et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Anne Contenaire.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour une émission un peu spéciale. Vous le savez peut-être, toute la journée, RFI vous propose des éclairages sur le programme des 11 candidats à la présidentielle en France. Nous sommes à un mois pile de l'élection du nouveau chef de l'État français. Et à cette occasion, nous allons essayer d'y voir plus clair dans les propositions des candidats. Quel avenir pour la sécurité sociale? Pour l'hôpital public? Comment faire pour mieux contrôler le prix des médicaments? Pour en parler, trois invités avec moi ce matin. Frédéric Bizard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, enseignant à Sciences Po à Paris et spécialiste des questions de protection sociale et de santé publique. En face de vous, le docteur Pierre-Henri Bréchat, bonjour.
Bonjour.
Médecin spécialiste de santé publique et de médecine sociale à l'assistance publique Hôpitaux de Paris et membre, entre autres, de l'Institut Droit et Santé et du système d'assurance privée américain Intermountain Healthcare. Et enfin, Antoine Vial, expert en santé publique, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On va commencer par évoquer l'hôpital. Au tout début de l'année, en pleine épidémie de grippe, le président français a organisé une réunion de crise pour parler notamment des services d'urgence, souvent complètement saturés. Selon l'OCDE, entre 12 et 56% des visites aux urgences ne sont pas appropriées. C'est énorme, mais que nous dit ce chiffre exactement, Pierre-Henri Bréchat ?
Déjà, peut-être préciser qu'il y a deux bonnes nouvelles dans cette présidentielle. C'est que, pour la première fois, les questions d'assurance maladie et de santé sont devenues des enjeux dans notre pays, et ça c'est vraiment bien. Et sur des questions problématiques, peut-être hôpital ou centres de santé, déserts médicaux tels que vous les avez évoqués, on voit émerger finalement une dynamique qui nous permettrait de transformer ce système, qui est un petit peu archaïque, un petit peu vieillissant, pour sans doute le moderniser. Donc ces questions de l'hôpital posent la problème de l'organisation, de l'efficience organisationnelle d'un parcours de santé ou d'un parcours de soins pour la population qui puisse être de grande qualité pour favoriser à la fois l'amélioration de l'état de santé de la population et quand elle est malade, proposer des soins qui lui permettent de guérir le plus possible tout en satisfaisant à la fois les professionnels de santé mais aussi la population.
Antoine Vial, ce trop grand nombre de visites aux urgences, c'est le résultat de quoi, à votre avis ?
D'abord, je constate que c'est récurrent. Ça fait maintenant des décennies que, alors on a tout essayé, on a élargi et agrandi et permis effectivement la formation de nombreux anesthésistes réanimateurs, d'urgentistes. On a agrandi ces services d'urgence en règle générale, moins, beaucoup plus qu'on ne l'avait fait pour d'autres spécialités, par exemple en chirurgie. On a essayer de créer encore des centres 15. On a harmonisé justement tout ça avec entre les SAMU et les pompiers. Enfin, on a essayé à peu près tout. Je constate que on n'a jamais, en fait, finalement, on n'est jamais revenu à la source. La source de cet engorgement des urgences récurrentes, c'est d'abord parce que les gens, lorsqu'ils ont un problème de santé, ne sont pas des imbéciles et que quand ils pensent, et le plus souvent, les études le montrent, à raison qu'ils vont avoir besoin d'un plateau hospitalier parce que, par exemple, il faudra de l'imagerie, ils vont directement aux urgences. Donc déjà, je trouve qu'il y a une question qui se pose, qui est celle de pourquoi se rend-on... C'est la question que vous avez posée, mais sous un angle, je dirais, sociologique. C'est qu'est-ce qui fait que... Alors après ça, on connaît aussi les causes. Les causes, c'est que notre médecine de première ligne, elle est inexistante. Et donc, effectivement, on a un certain nombre de personnes qui se retrouvent le week-end, la nuit... dans certaines conditions où il n'y a pas d'autre finalement alternative que d'aller à l'hôpital.
Mais justement, effectivement, il y a plusieurs candidats qui mentionnent que cet engorgement des urgences est dû en partie à l'absence de médecins généralistes ou de permanence de soins dans certaines régions. Et voilà la proposition de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Lors du débat télévisé lundi dernier, il a parlé de ce que l'on appelle les déserts médicaux.
Non seulement il faut reconstituer tout ce qui a été détruit, et en particulier dans le secteur de la santé, où il faut aller curer à fond la maladie. Il faut que l'on crée des centres de santé et que l'on recrute des médecins fonctionnaires, car on ne peut plus accepter que le territoire soit déserté par le quadrillage médical et sanitaire.
Des médecins fonctionnaires rémunérés pendant leurs études en échange d'une installation dans une zone très peu dotée. C'est une bonne solution, Frédéric Bizard ?
C'est probablement la pire des solutions, mais le problème vient qu'on a une approche extrêmement politique des questions de santé, pas pragmatique. On parle de l'hôpital, c'est un peu le bal des faux culs à l'hôpital, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on a eu un quinquennat Sarkozy qui nous a expliqué que l'hôpital c'était une entreprise avec un seul chef qui devait être le directeur de l'hôpital, puis un quinquennat de Hollande qui nous a expliqué que non, c'était un service public et qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'on allait tout remettre à plat et il y a un malaise social comme il n'y a jamais eu à l'hôpital. Donc je pense qu'il faut bien considérer qu'il y a eu un changement de monde comme jamais on a eu dans l'humanité ces 20 dernières années qui impacte considérablement l'environnement dans lequel le système de santé évolue. C'est la transition démographique, épidémiologique et technologique. Donc soit on rebâtit le système de santé et l'hôpital tel qu'il devrait être, c'est-à-dire pas au cœur du système de santé, le système hospitalo-centré, c'était le modèle aigu du XXe siècle, c'était celui qui a fonctionné. Dans le modèle chronique du XXIe siècle, l'hôpital, c'est le lieu de dernier ressort. C'est là où on va lorsque véritablement on ne peut plus être soigné ailleurs. Donc ce qui change quand même considérablement l'organisation du système de santé, l'organisation de l'hôpital, et donc c'est un plan stratégique à 5 à 10 ans. C'est certainement pas en reconstituant ce qu'on a en effet détruit, c'est-à-dire pas en reconstituant le système de santé du XXe siècle, mais en le repensant. Pour finir, l'hôpital, c'est le lieu, c'est quoi ? C'est un lieu d'excellence en matière de soins et de recherche. C'est-à-dire que c'est vraiment des opérations, des interventions qu'on ne peut pas faire ailleurs que dans un établissement hospitalier. Et puis, c'est un lieu de prise en charge de personnes âgées fragiles qu'il faut hospitaliser, même s'il n'y a pas d'intervention à le faire. Voilà, donc je crois qu'il faut rebâtir l'hôpital autour de ces deux missions. Rien de plus, rien de moins.
Et alors, comment on fait pour faire en sorte que les personnes qui ont besoin d'être soignées puissent l'être près de chez elles et au premier niveau de la médecine, Pierre-Henri Bréchat ?
Eh bien, il faut poursuivre la dynamique d'adaptation du système global. En santé publique, on prend souvent le terme de continuum. Il faut arriver à positionner des offres de qualité en prévention, mais aussi un secteur ambulatoire organisé, connecté avec l'hôpital, c'est en cours, notamment avec les groupements hospitaliers de territoire, c'est une bonne nouvelle aussi, mais aussi avec les offres médico-sociales et sociales, dans une dynamique où il faut un but, un sens. Et c'est ça un petit peu où les candidats à la présidentielle pourraient avoir plus d'ambition. C'est-à-dire, le but, ça pourrait être, comme d'autres systèmes, de tout faire pour que la population soit dans le meilleur état de santé possible, partout et pour tout le monde. Donc pour ça, il faut revenir sur le territoire de santé ou de santé publique, définir les besoins et adapter le système par rapport aux besoins et par rapport au continuum, dans une dynamique positive et constructive.
Ce qui n'est manifestement pas le cas pour l'instant. Alors Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu, suggère de mettre en place un corps de fonctionnaires qui serait rémunéré en échange d'une installation dans des zones peu dotées. Emmanuel Macron considère qu'en fait les mesures contraignantes et même incitatives fonctionnent assez peu. Ce sujet du manque de médecins dans certaines régions est évoqué en fait par presque tous les candidats. Marine Le Pen en a même fait une priorité.
L'un des problèmes majeurs en matière de santé, vous le savez, la difficulté de l'accès aux soins qui s'est déjà fortement dégradé et qui ne devrait pas s'améliorer au cours des mois à venir. Pire encore, les nombreux départs à la retraite attendus au cours des prochaines années laissent entrevoir une pénurie de médecins, notamment généralistes, alors que les besoins augmentent du fait du vieillissement de la population. C'est pourquoi il m'apparaît capital de recruter plus de médecins. Ainsi, je relèverai dès notre arrivée au pouvoir le numerus clausus de manière à pouvoir tenir compte de la réalité du terrain tout en donnant aux facultés les moyens de former ces étudiants supplémentaires. Je vous rappelle que nous réclamons ça depuis des années et des années. Pour sensibiliser les jeunes médecins à la question des déserts médicaux, je propose d'instaurer un stage d'internat dans une zone désertifiée. Il faut en effet tout entreprendre pour mettre fin aux déserts médicaux, ces zones de non-soins qui ne sont pas admissibles.
Alors le fameux numerus clausus, c'est le nombre de places en faculté de médecine qui conditionne donc le nombre de médecins en France. Pour que tout le monde puisse se faire une idée, les universités proposent cette année 8124 places. C'est plus que l'année précédente, mais l'idée ne fait pas l'unanimité. Et surtout, Frédéric Bizard, c'est plutôt une solution à long terme, parce qu'en comptant le nombre d'années d'études et des stages, ces médecins supplémentaires ne travailleront pas avant vraiment longtemps, non ?
Mais je pense que c'est une non-solution. Il n'y a pas un manque de médecins quand vous regardez aujourd'hui la démographie médicale. Vous avez 3 médecins pour 1000 habitants, ce qui est plutôt au-dessus de la moyenne. En revanche, En revanche, il y a en effet, pourquoi est-ce qu'il y a des déserts médicaux en France ? Parce que vous avez un système de médecine de ville qui est dominé par l'exercice libéral, d'accord ? Et cet exercice libéral, on l'a rendu de plus en plus risqué, quasi impossible aujourd'hui pour des jeunes. Non pas qu'ils aient envie de salariat, il y a une blague qui circule comme quoi les jeunes voudraient s'installer en salariat, comme si au XXIe siècle, c'était l'avenir de la médecine ou du travail en général. Les jeunes ont plutôt envie d'autonomie et d'indépendance. Donc on avait cette chance de pouvoir donner cette autonomie. Par contre, on a rendu l'installation sur un plan économique quasi impossible. Hein. C'est du staccanovisme où il faut travailler de 7h du matin à 20h le soir avec une bureaucratie beaucoup trop importante. Or, on n'a pas... moi, je suis plutôt favorable à maintenir et à développer l'exercice libéral. Mais je respecte ceux qui veulent fonctionnariser. Mais allons alors vers une solution ou une autre. Mais ne détruisons pas l'existant sans proposer véritablement de solution alternative avec une vision, avec un élan. Or, on sait bien qu'on n'a pas le début des moyens pour faire ce que M. Mélenchon voudrait. Là, on a écouté les deux extrêmes qui se trompent sur un point. C'est que le problème du système de santé, c'est tout sauf un problème de ressources. On n'a jamais eu autant de ressources financières, humaines et technologiques pour soigner les gens. Donc c'est un problème d'inadaptation du système dans son organisation, dans sa gouvernance, dans son financement, à un environnement qui a radicalement changé. Arrêtons de faire croire qu'il faut plus d'hommes, plus de ressources financières. Il faut réorganiser le système et le repenser.
Et Antoine Vial, qu'est-ce qui manque alors ?
Quand on regarde ce qui fait qu'il y a effectivement des zones de désertification et qu'on interroge les jeunes médecins, c'est tout simple. Et on voit d'ailleurs que quand on apporte un certain nombre de solutions, ça marche. Il y a les maisons de santé, les maisons pluridisciplinaires. On ne veut plus exercer seul dans un endroit où, comme vient de le rappeler Frédéric Bizard, on se retrouve finalement avec des horaires absolument impossibles, un week-end sur deux. Plus personne veut travailler comme ça 70 heures par semaine. Et encore moins quand on sort de fac et qu'on est en général jeune marié avec des enfants. Donc, c'est no way, il n'y a pas de possibilité. Donc, maison de santé. La deuxième chose dont on sait qu'effectivement ça impacte fortement l'installation de jeunes médecins dans des territoires isolés, c'est l'enseignement de médecine générale, le stage de médecine générale chez des médecins généralistes. Et on le voit, je vais citer l'exemple de l'Aveyron. L'Aveyron Nord, autour de l'Aïeul, a eu effectivement un certain nombre de médecins généralistes enseignants qui ont accueilli pour 6 mois des jeunes médecins et qui, dont un certain nombre, se sont installés. Parce que tout simplement, on va découvrir la richesse de l'exercice, l'intérêt quand même justement d'être là pour le coup vraiment à la manœuvre, d'être vraiment responsable de l'ensemble de la société d'intérêt, de la santé d'un territoire. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui intéresse les médecins. Alors après ça, on a parlé de primes, on met des primes de 50 000 ici, des défiscalisations là, ça ne marche pas. Le numerus clausus, comme ça a été rappelé, c'est des années. Je crois que vraiment, il y a tout un travail de recomposition à faire dans les métiers de santé. Au Canada, on a des infirmières qui, au bout de 15 ans d'exercice, font une formation supplémentaire et peuvent avoir une fonction de médecin de première ligne. On voit pas pourquoi, effectivement, cette ressource-là ne pourrait pas être éventuellement envisagée. De la même façon, le pharmacien est la personne compétente en France pour le médicament, et on voit qu'il est sous-exploité aussi.
On parlera du médicament tout à l'heure. Antoine Vial, vous avez évoqué les fameuses maisons de santé. Tous les candidats, ou presque, en parlent. Des centres pluridisciplinaires. Emmanuel Macron souhaite en créer 2000, Benoît Hamon 1500. Pierre-Henri Brecha, vous qui vous êtes intéressé aux initiatives de pays étrangers, qu'est-ce que vous pensez de ces centres ?
Derrière les centres, c'est l'idée française qu'on peut finalement copier de loin. Mais quand on regarde ce qui se passe concrètement dans ces systèmes qui ont de meilleurs résultats aujourd'hui que nous, on voit qu'il faut arriver à faire en sorte que les professionnels puissent travailler ensemble, chacun dans ses missions. Donc on arrive sur les questions de coopération entre professionnels, l'administration, l'infirmière, le médecin, qui vont travailler avec des outils modernes. On pense aux référentiels de bonnes pratiques qui sont co-construits avec les professionnels de santé, testés, et qui vont pouvoir permettre une prise en charge de qualité partout sur le territoire pour tout le monde. Mais derrière la question des médecins ou des infirmières ou des centres de santé, il y a la question de la modernisation importante de notre système, et il faut parler des nouvelles lignes de professionnels dont on a besoin pour pouvoir y arriver, et qui pourraient être un des grands chantiers, me semble-t-il, de la reconfiguration, de la grande transformation des hôpitaux ou des centres hospitaliers universitaires. Regardez par exemple l'histoire du tiers payant qu'on a connu dernièrement. On voit l'émergence d'un grand nombre d'assurances maladies et la question du financement pour les professionnels se pose, donc d'un temps important. Ces systèmes américains, je pense Intermountain Healthcare, qui est le leader de la Value of Care collaborative aux États-Unis, qui est un des leaders mondiaux de la transformation des systèmes, de la modernisation des systèmes, lui a dédié des professionnels de ces établissements pour faire des lignes de responsable de parcours administratif. C'est-à-dire que c'est le système lui-même qui va aller chercher l'argent pour prendre en charge le patient et libérer le professionnel de ses missions de professionnel. Il y a aussi des adjoints qui sont les responsables des parcours de santé. C'est-à-dire, quand un professionnel, que ce soit en centre de santé, que ce soit en hôpital, arrive à co-décider avec son équipe qui le prend en charge le bon parcours de santé pour qu'il y ait une bonne observance, à ce moment-là, vous avez un professionnel sur une autre ligne qui va mettre en place le parcours de santé pour aider l'usager à se prendre en charge. Ça, ça pourrait être de bonnes idées.
Frédéric Bizard, comment on fait pour améliorer ce fameux parcours de santé?
Alors là, on est parti, je pense, pour encore 10-15 ans de ce mot valise maison de santé. Vous savez, depuis 20 ans, si vous reprenez un peu les grands totems, il y a eu prévention il y a 20 ans. Dès qu'un politique ouvrait la bouche, c'était pour dire qu'il faut faire de la prévention. Je crois qu'on est le pays avec probablement une politique de prévention la moins développée.
C'est encore le cas aujourd'hui, c'est ce que
ensuite,
j'allais dire.
Ensuite, il y a eu la chirurgie ambulatoire il y a 10 ans où il suffisait de développer la chirurgie ambulatoire pour régler les problèmes à l'hôpital. Bon, et puis on a un retard colossal. Maintenant, c'est maison de santé. Non, je partage l'avis, docteur Bréchat, c'est que il faut d'abord raisonner sur ce dont on a besoin pour répondre aux nouveaux besoins. On a besoin, en effet, d'interdisciplinarité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre tout le monde sous le même toit? Non, ou alors le numérique n'existe pas. Bon, enfin, je vois pas en quoi faire travailler les gens ensemble nécessite de les mettre sous le même toit. On a besoin d'organiser une médecine sous forme de médecine de parcours. C'est-à-dire qu'il faut définir des parcours que la Haute Autorité de Santé a définis pour l'ensemble des grandes pathologies chroniques, mais encore faut-il les faire appliquer. Alors on l'a fait pour l'oncologie, où vous avez vraiment un parcours de soins qui est structuré, mais on ne l'a pas fait pour le reste. Je pense qu'il faut le structurer. Moi j'ai proposé un contrat patient, c'est-à-dire qu'au moment où le patient, avec le médecin déclare l'affection de longue durée à l'assurance maladie, il y a un contrat qui est signé avec un protocole personnalisé de soins et un médecin coordinateur qui, avec l'aide d'un, il faut créer de nouveaux métiers, avec l'aide d'un assistant analyste, s'assure que le patient suive bien son parcours. Est-ce que tout ça nécessite absolument de mettre les gens sous le même toit? Non. Donc c'est une bonne idée dans certains cas, si les médecins décident de se regrouper, mais attention, parce que les coûts fixes augmentent, donc on voit qu'actuellement, les quelques milliers de maisons de santé, elles sont soit vides, soit elles sont sous perfusion financière, hors assurance maladie, parce que le modèle économique ne fonctionne pas, donc c'est pas rien quand même. Mais donc, voilà, moi j'éviterais ce genre de mot, doubler maisons de santé. Vous voyez, il suffit de ça, on a réglé le problème des déserts médicaux, on va doubler les maisons de santé. Qu'est-ce qu'on y... Il y a un choix plus important à faire, qui est entre Monsieur Mélenchon et puis Monsieur peut-être Fillon et Macron. C'est est-ce qu'on passe à une médecine publique en ville, à l'anglaise, ou est-ce qu'on reste sur une médecine concurrentielle, même si on peut y mettre plus de public en France ou tout ça. Ça me paraît déjà important parce qu'il faut trancher ce débat-là. C'est pas du tout le même système de santé. D'un côté, vous avez une liberté de choix, de l'autre, vous n'avez pas de liberté de choix. Il y a des avantages inconvénients dans les deux, mais je pense que le modèle français a démontré sa supériorité.
Antoine Vial, sur cette répartition médecine publique, médecine privée.
Alors d'abord sur les maisons de santé, il y a la possibilité, quand on dit maison de santé, c'est aussi la possibilité de s'organiser en pôle. C'est-à-dire chacun reste chez soi dans son établissement, dans son cabinet, mais effectivement, il y a le numérique qui permet à tout le monde de communiquer sur le même territoire et donc d'améliorer le parcours de soins.
Mais c'est pas physiquement être au même endroit, comme le disait Frédéric Bizard.
Voilà. Il y a vraiment des combinaisons possibles qui existent et qui justement se mettent en place sur les territoires, et on voit que justement ça répond à des problèmes de territoire, parce que selon les territoires, il y a déjà des installations qui ont été faites, les gens vont pas envie forcément de déménager, envie de travailler sous le même toit effectivement, envie d'être éventuellement regardé, observé par les confrères, donc tout ça... On rentre dans ce qui est le caractère humain, voilà. Et donc, quelquefois, il y a lieu de faire une maison et un même toit. D'autres fois, il y a tout simplement raison d'organiser ce qui existe déjà. Bon, ça, c'était pour la première...
Donc, laissons les gens libres de s'organiser.
Absolument, mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est pas... il y a eu une tentative pour essayer d'organiser
la liberté,
les maisons de santé.
C'est difficile, hein. Les ARS et la liberté, c'est difficile.
C'est effectivement deux concepts qui ne se...
Les ARS, pour que nos auditeurs comprennent, les agences régionales de santé.
Qui sont vraiment les tutelles sur chacun des territoires.
Et qui fonctionnent mal.
Simplement gère de façon administrative, c'est-à-dire reçoit des ordres de la Direction Générale de l'Ordre des Santé, il y a plus de 600 ordres par an, et applique de façon administrative, bureaucratique, et souvent à contresens par rapport aux enjeux locaux.
Alors sur le public, pour répondre, pardon.
On va marquer une toute petite pause, désolé, on reviendra tout à l'heure sur cette question. Petite pause, le temps de faire le point sur l'actualité dans le monde. On se retrouve dans 3 minutes pour parler d'autres enjeux, la sécurité sociale et le prix du médicament. Nous verrons ce que prévoient les différents candidats à la présidentielle. À tout de suite.
C'est 7 milliards de voisins.
Et santé. Anne Cantner.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous parlons de la place de la santé dans l'élection présidentielle en France. On en avait beaucoup parlé au tout début de la campagne après une proposition choc de François Fillon. Le candidat du parti de droite, Les Républicains, envisageait de réserver l'assurance publique universelle aux affections graves ou de longue durée et l'assurance privée pour le reste. Scandale. Face aux critiques, François Fillon a finalement renoncé à cette différence entre gros risque et petit risque, mais il a quand même mis le sujet sur la table. D'ailleurs, il en a parlé lundi lors du débat entre tous les candidats à la présidentielle, c'était sur BFM.
Jamais je n'ai imaginé privatiser la sécurité sociale. Par contre, les complémentaires, Madame Le Pen, c'est tout à fait injuste de les traiter comme vous le faites. Ce sont, elles existaient avant la sécurité sociale. Alors, et elles ont rempli une mission fondamentale et elles doivent continuer à la remplir. Je propose simplement qu'il y ait désormais un organisme qui contrôle les complémentaires dans lequel il y a à la fois la sécurité
c'est
sociale,
terminé.
L'État et les professions de santé.
Et aujourd'hui, la branche maladie de la sécurité sociale est en déficit. Le gouvernement table sur 2,6 milliards d'euros, mais la commission des comptes de la sécurité sociale, elle, prévoit un déficit de plus de 10 milliards cette année. Comment faire pour le réduire? François Fillon, par exemple, on vient de l'entendre, veut augmenter la couverture par les mutuelles et les assurances complémentaires, c'est-à-dire des organismes en grande partie privés qui remboursent aux patients la part que la sécurité sociale ne prend pas en charge. Je précise qu'actuellement, il y a deux étapes dans le remboursement des frais de santé en France. D'abord auprès de l'assurance maladie qui rembourse une partie des visites chez le médecin ou d'achat de médicaments. En général, cela ne dépasse pas 50% sauf pour les maladies longues. Et ensuite, la mutuelle ou l'assurance privée prend le relais et il reste généralement une petite part à la charge du malade. Emmanuel Macron, lui aussi, compte s'appuyer davantage sur les complémentaires. À l'avenir, on l'écoute.
On a aujourd'hui un système qui est mal organisé en termes de couverture parce qu'il y a une forme de déresponsabilisation collective. La sécurité sociale les rembourse très mal, les mutuelles et les assureurs les remboursent un peu mais pas suffisamment pour les réguler proprement et donc on a laissé parfois des coûts s'envoler, on n'a pas une vraie transparence alors qu'on a une couverture qui peut être coûteuse. Donc ce que je propose là-dessus, c'est de mettre davantage de concurrence entre les assureurs, les mutuelles, etc. par des contrats types. Trois contrats types que tout le monde doit proposer. Parce qu'aujourd'hui, je vous défie, si vous voulez vous couvrir sur le dentaire ou sur les lunettes, vous allez demander à des assureurs ou des mutuelles leurs contrats, vous ne pouvez quasiment pas les comparer. C'est très dur de les comparer, on le sait bien. Et donc ça, c'est un élément de transparence qui est très important.
Très
ensuite, sur les professionnels, là aussi, je demande plus de transparence, c'est-à-dire transparence des coûts, du coût réel de la prothèse et une plus grande concurrence.
Antoine Vial, que pensez-vous des propositions qu'on vient d'entendre ?
Si vous voulez, il y a d'abord cette question du RAC, du reste à charge. À peu près tous les candidats se sont engagés à ce qu'il n'y ait plus de reste à charge sur le dentaire, les audioprothèses et la lunetterie. 5 milliards à peu près, selon Frédéric Bizard nous le confirmera, mais c'est à peu près ça qui a été calculé par les économistes. Alors on voit déjà qu'on est en déficit et on rajoute 5 milliards et donc on cherche là où ça va être financé. Alors je suis pas économiste du tout, donc c'est pas moi qui vais me lancer dans des grands propos là-dessus et des propositions. Par contre, ce que je constate, c'est que on parle de certains RAC, certains restes à charge, par exemple dans ces trois domaines que je viens de citer. On en parle, par exemple, pas du tout pour les personnes handicapées et les personnes vieillissantes. Or, ça devient un véritable problème de renoncement aux soins. C'est-à-dire que vous avez des personnes, par exemple, handicapées ou vieillissantes, qui restent chez elles parce qu'elles ne sont pas équipées de fauteuils électriques. Vous comparez l'Allemagne, la France, la Hollande, enfin les pays qui sont voisins de nous, et vous voyez que, par exemple, le taux d'équipement en fauteuil électrique dans ces pays-là et chez nous est vraiment très très largement inférieur aux besoins en France. Donc on a un vrai problème finalement de financement du soin. Alors de deux choses l'une, où on a suffisamment d'argent dans les caisses pour financer tous les soins dont tout le monde a besoin, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un consensus, sur quel est le bon soin, etc. C'est fait par la communauté médicale. Donc on finance ça, mais dans ces cas-là, il ne faut pas dire qu'on est en déficit, ça va être abyssal. Donc il y a bien des choix à faire. Et donc moi je pose la question effectivement de qui fait ces choix ? À qui effectivement reviennent ces choix ? Est-ce que c'est à un ministre ? Fut-il bien intentionné ? Fut-il bienveillant ? Fut-il compétent ? Ou est-ce que effectivement on est en 2019 2017, et on est dans une société où ces choix qu'il faut faire, eh bien, finalement, relèvent de chacun d'entre nous. Et moi, j'en appelle à une société participative, collaborative, où effectivement, autant au niveau de la gestion de ma santé, et donc de mon parcours de soins, on regarde le DMP. Le DMP n'est pas fait pour le patient. Le DMP a été fait pour le professionnel. Il est sous l'autorité. On vient de découvrir que finalement, quand on le plaçait sous l'autorité de l'assuré, finalement, ça marchait beaucoup mieux. Mais c'est une évidence. Enfin, il y avait besoin d'aller aussi loin pour le savoir.
DMP, donc, vous nous expliquez pour nos auditeurs.
Dossier médical personnalisé, c'est le fait d'utiliser la numérisation pour effectivement profiter du fait d'une fluidité de l'information et d'une communication entre tous les professionnels qui en ont besoin et l'usager au milieu.
Cette répartition donc, qui pourrait changer entre ce qui est pris en charge par l'assurance maladie et par les complémentaires. Moi, je ne suis pas économiste non plus, mais si les complémentaires assument une plus grande part, elles vont forcément augmenter leurs tarifs, non, Frédéric Bizard?
Parlons du système. Le système de financement, c'est vraiment un pilier de l'organisation de notre système de santé. Pourquoi est-ce que ça dysfonctionne? Ça dysfonctionne principalement parce que on a un système d'assurance privée qui assure de façon totalement déconnectée par rapport à la réalité du risque. Que financent les assureurs privés? Tout du moins un petit peu. Que financent les assureurs privés? Ils financent ce qu'on appelle le reste à charge après l'assurance maladie, qui est de trois ordres. Le premier ordre, ce sont les tickets modérateurs. C'est-à-dire que notre système de 45 fait que dans le tarif de sécurité sociale, vous avez une participation des assurés que veut supprimer le gouvernement actuel, puisque le tiers payant le supprime. Et à ce moment-là, il faut savoir comment on maîtrise les dépenses de santé. Deuxième composante, c'est la partie libre des honoraires, notamment dans ce qui a été cité par Antoine Vial, les 5 milliards en dentisterie, là, qui représente un vrai risque d'accès aux soins dans un certain nombre de cas où vous pouvez avoir des centres importants. Et puis, c'est ce qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Or, les assureurs privés ont fait en fait ce marché une rente et sur les 26 milliards de remboursement, ils remboursent 20 milliards uniquement dans ces tickets modérateurs, c'est-à-dire ce qui ne représente aucun risque. Donc, Fillon là-dessus a raison de dire il faut qu'on repense l'organisation du système de soins et les champs d'intervention des financeurs. Et je pense qu'il n'y a rien à remettre en cause par rapport à l'assurance maladie. Il faut savoir que l'assurance maladie, c'est le seul mode de financement redistributif. Hein. C'est un des trois objectifs du système de financement, c'est d'assurer la redistribution. Le deuxième, c'est de maîtriser les dépenses et le troisième, c'est de couvrir le risque. Donc, on a simplement un problème de couverture du risque qui est lié au fait qu'on a les 35 milliards de primes financées par les Français pour leur complémentaire santé sont totalement inefficaces, très inéquitables, et donc il faut revoir ça. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Complémentaire santé, le scandale, pour lequel j'ai été extrêmement critiqué. Je n'ai rien contre le système de complément, enfin, je n'ai rien contre les complémentaires santé. Je pense qu'il faut qu'elles soient là, comme ça a été rappelé. Mais enfin, en effet, il faut leur donner un rôle beaucoup plus efficace.
Alors, ça n'est pas l'avis de tout le monde. Hein. On est sûr, en tout cas, que le système actuel a des limites. Vous parliez tout à l'heure du renoncement aux soins. Selon une étude qui a été menée par le ministère des Finances, celui du Travail et celui de la Santé, entre 21 et 36% des Français renoncent à se soigner parce que cela coûte trop cher. Et pour Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Poutou, par exemple, il faut rembourser à 100% par l'assurance maladie, fusionner l'assurance maladie et les complémentaires. Et cette idée a été défendue d'ailleurs par le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris et par le responsable de la chaire santé à Sciences Po. Tous les deux avaient publié une tribune très remarquée dans le journal Le Monde en janvier dernier. Pierre-Henri Bréchat, comment on pourrait parvenir à ce remboursement à 100% et est-ce que c'est souhaitable?
Alors, on a plusieurs bonnes nouvelles pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire on a aujourd'hui l'amorce d'un décloisonnement entre le système d'assurance maladie et le système de santé. C'est-à-dire qu'on commence à se poser la question sur qu'est-ce que l'assurance maladie rembourse? Est-ce que c'est une bonne qualité ou c'est une mauvaise qualité? Est-ce que ça favorise l'amélioration de l'état de santé de la population? Est-ce que ça sauve des vies? Et cette dynamique-là, on a 19 systèmes américains qui nous montrent comment faire, c'est-à-dire mettre en place ce cercle vertueux qui va faire en sorte qu'on va travailler sur la non-qualité, sur les gaspillages qui représentent à peu près 70 milliards d'euros par an en France. Et c'est une bonne nouvelle aussi, parce que ça veut dire qu'en travaillant mieux ensemble, il n'y a pas forcément besoin de plus d'argent, mais que cet argent-là, on va pouvoir le redistribuer ensuite sur les bons soins, sur les bonnes actions de prévention, et améliorer la prise en charge par l'assurance maladie du panier de soins et de services demandés d'ailleurs par la population. Ce qui fait que, même si aujourd'hui, par exemple, pour les soins courants et l'assurance maladie obligatoire, on est sur une baisse baisse du remboursement à hauteur de 50%. On voit que par des mécanismes comme ça, on pourrait réalimenter le remboursement et le faire remonter, comme les Américains, par exemple, Intermountain Care, ils sont aujourd'hui à 90% de remboursement pour toutes les priorités de santé publique mondiale, c'est-à-dire les pathologies chroniques, le vieillissement, la dépendance. Et vous avez un premier système qui, au Massachusetts, est arrivé à financer une assurance maladie universelle. Donc, on amorce finalement une dynamique où chaque acteur va avoir son rôle à jouer et qu'on peut organiser et on peut être confiant dans cette dynamique-là.
La théorie économique est assez claire là-dessus. Elle dit que peu importe la nature de l'opérateur par rapport à ce financement. Donc les exemples cités par le Dr Brecha, il se trouve que c'est de l'argent privé. Donc ça justifie pas de mettre 100% d'argent public. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il faut un minimum d'intervention. On est à 76% en France de mutualisation publique et il n'y a pas raison d'aller plus bas ni plus haut. Donc ça, je pense que le seul cohérent là-dedans, c'est peut-être pour ça qu'il réussit aussi bien, c'est Monsieur Mélenchon. Parce que ce qui justifie de nationaliser le financement de la santé, c'est de vouloir installer une médecine public fonctionnarisé, qui fait qu'en fait on n'a plus de sécurité sociale, parce que Monsieur Mélenchon, sans le dire, mais tue la sécurité sociale et transforme le financement en un budget public à l'anglaise. Le seul problème, c'est que ce modèle-là entraîne une dualité entre une médecine des pauvres et une médecine des riches, puisqu'en général, la médecine publique, elle finit toujours par être de moins bonne qualité, pas forcément sur un plan médical, mais sur un plan du service, qu'une médecine qu'un certain nombre de services privés. Donc le système français, c'est de rendre la médecine des riches accessible à tous. Donc je crois qu'on a réussi avec ce système concurrentiel qui a une forte composante publique à créer le meilleur système de santé du monde. Donc encore une fois, il y a une décision politique à prendre entre Monsieur Mélenchon et d'autres qui voudraient garder le modèle français. Sur ce choix politique, je pense que les Français devraient se prononcer dans quelques jours.
Antoine Vial, la médecine publique devient forcément une médecine des riches ?
Moi, j'ai pas de dogme. J'ai pas de dogme en la matière.
Des pauvres, pardon, bien
des pauvres,
sûr.
Oui, oui. J'ai pas de dogme en la matière. On peut s'interroger quand on connaît le fonctionnement, justement, des cliniques privées à but lucratif et des hôpitaux publics. Je vais prendre un exemple. Vous êtes patient, vous êtes obèse, vous avez fait un col du fémur, vous avez pété votre col du fémur, et vous avez, à cause de votre immobilisation, fait un escar. On vous opérera pas à la clinique. On va vous envoyer à l'hôpital public, tout simplement parce que l'intervention est difficilement programmable. On ne sait pas très bien combien de temps ça va prendre. Et donc, le coût risque de ne pas rentrer, justement. Parce que ces établissements privés, c'est des fonds de pension. Je veux dire, il faut que ça rentre de l'argent. C'est fait pour ça. Là encore, je juge pas. Je dis juste, la finalité d'une clinique privée à but lucratif, ça dit bien, à but lucratif. Donc, c'est de faire de l'argent. Et évidemment, on va aller dans les spécialités où ça, on peut gagner de l'argent. Et tout ce qui est en dehors, tout ce qui est à la marge, on ne va plus le faire. Qui le fera s'il n'y a plus d'hôpitaux publics? Or, aujourd'hui, les hôpitaux publics, vous avez dans certaines spécialités des taux de vacances de 41% de spécialités. Taux de vacances, ça ne veut pas dire que les médecins, les infirmières sont en vacances. Ça veut dire qu'il y a un poste qui est budgété, qui existe, et pour lequel il n'y a personne. Et ça, aujourd'hui, dans un nombre incroyable d'établissements en France, petits et moyens, mais ça atteint maintenant les CHU, vous êtes dans des difficultés, justement, parce que vous ne pouvez plus assurer la continuité des soins. Et ça, c'est un véritable problème, là encore, d'égalité d'accès aux soins. C'est-à-dire que si je suis en Aveyron, dans le Gers ou dans le Nord, eh bien je vois bien que mon choix, finalement, d'une médecine où je choisirais mon praticien, mon établissement, etc., n'existe plus.
Oui, mais si on veut une liberté de choix, justement, il faut une offre mixte public-privé. Je crois que le modèle français là-dessus a sa force. Ne paniquons pas, sur les 90 milliards de dépenses hospitalières, il y a 70 milliards de dépenses public. Donc je pense qu'il n'y a pas le feu au lac de voir des entreprises à but lucratif prendre le pouvoir dans ce pays. Je pense qu'elles apportent, moi je ne suis pas favorable à la financiarisation de ce secteur-là par des fonds de pension. Je pense que c'est une erreur du secteur privé et ils iront dans le mur, ils seront marginalisés s'ils continuent comme ça. Mais par contre, je pense qu'elles ont leur rôle à apporter pour servir d'aiguillon dans un système concurrentiel. Là aussi, c'est un choix.
Alors, puisqu'on parle d'égalité d'accès aux soins, on va parler du prix du médicament.
Priorité santé sur RFI.
Le prix du médicament, tous les candidats à la présidentielle en parlent. Voici ce qu'en disait Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste, devant la Mutualité Française.
Les médicaments coûteux, nous avons aujourd'hui un système qui fixe les prix, non plus tellement en fonction des coûts de production, mais au fond, même si c'est un non-dit, en fonction de la propension à payer des gens. Oui, pour un certain nombre de médicaments, on se souvient des médicaments sur l'hépatite C ou une mise sur le marché à 60 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas mourir et parce qu'on est prêt à payer très cher pour cela. Et je pense que demain, dans la renégociation de ces prix, il faudra se doter des moyens justement de pouvoir les faire baisser. Et pour cela, il y a un instrument, c'est un peu l'arme ultime, mais c'est la licence d'office, la possibilité de génériquer une molécule dès lors qu'on considère que les prix de mise sur le marché sont exorbitants et ne correspondent pas à la réalité des coûts de production.
Benoît Hamon vient d'évoquer le coût du traitement contre l'hépatite C qui est vraiment un exemple emblématique. Les soins coûtaient tellement cher qu'ils ont d'abord été réservés aux malades les plus gravement atteints, une situation rendue possible par le quasi-monopole d'un laboratoire américain. Aujourd'hui, la situation a évolué. Depuis le 1er avril, il n'est plus possible de vendre ce traitement, plus de 28 700 euros en France, ce qui reste quand même très cher. La licence d'office dont parle Benoît Hamon, c'est applicable aujourd'hui en France, Frédéric Bizard ?
C'est applicable théoriquement. Maintenant, ça serait là aussi une mauvaise idée de le faire. Pourquoi ? Il y a un objectif par rapport aux médicaments, c'est que chaque Français ait un accès, une égalité d'accès à l'innovation. D'accord ? Ce qui est le plus important, ce sont les médicaments innovants. Vous avez aujourd'hui, je rappelle un petit peu le prix moyen d'un médicament en France. Je sais pas si les Français le savent, c'est 7 euros. Hors taxe, 8 euros. Et c'est, donc il faut pas tout mettre dans le même panier. Vous avez en France 20% des médicaments qui sont des médicaments génériques, qui coûtent très peu d'argent. Vous avez 20% de médicaments innovants et vous avez le reste qui sont des médicaments à service médical rendu modéré. Donc la question se pose sur les médicaments innovants. Pourquoi est-ce que, de mon point de vue, il faut trouver l'équilibre entre rendre accessibles ces médicaments et les payer à leur juste prix, et non pas à des prix dérisoires qui entraîneraient la licence d'office? Tout simplement parce qu'on est dans l'économie de l'innovation et que l'économie de l'innovation, ça fonctionne avec un système de signal par le prix qui fait qu'on vous encourage plutôt à investir dans l'innovation plutôt qu'à faire du mass market et à s'assurer qu'il y a du volume.
Mais donc, est-ce que ça n'amène pas certains laboratoires pharmaceutiques à sortir de nouveaux types de médicaments qui en fait apportent une innovation très limitée?
On l'a vu. Alors ça, c'est autre chose. Et le problème de la licence d'office, c'est qu'en fait ça élude un problème central qui est de repenser les systèmes d'évaluation et de valorisation de molécules qui n'ont plus rien à voir. Aujourd'hui, on est, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on est sur des modèles qui sont plus 100% moléculaires. On est sur des modèles qui sont à la fois mixtes, moléculaires et numériques. C'est-à-dire qu'on va avoir des médicaments qui vont être adaptés à tel ou tel profil génomique. Donc ça va être en fonction de l'information du génome qu'on va pouvoir voir si le médicament est utile ou pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour prendre un exemple, sur les statines, hein, sur les gens qui ont trop de cholestérol, il y a simplement 18% des gens qui ont un excès de cholestérol qui sont à risque cardiovasculaire. Or, on traite 100% des gens avec des médicaments qui sont certes pas très chers, mais enfin, il y en a pour 82% pour lesquels c'est inutile. Donc, il faut voir que ces médicaments innovants qui vont certes être plus chers, mais eux sont beaucoup plus ciblés et donc vont avoir une réponse thérapeutique beaucoup plus forte. Le problème que ça pose, c'est souvent lorsqu'il y a des situations de monopole. On l'a vu pour l'hépatite C. Vous avez un laboratoire américain qui est arrivé avec le premier médicament qui guérissait 95% des malades. Il était tout seul. Donc forcément, il s'est retrouvé en position de force. Maintenant, il y a eu deux autres lancements de laboratoires et qui ont entraîné une réduction par deux de ce prix du médicament. Donc, on voit que le résultat est quand même intéressant pour les patients et pour la collectivité. C'est qu'aujourd'hui, ils guérissent d'une pathologie. La maladie est devenue accessible financièrement, parce que contrairement à ce qu'on dit, le prix actuel de ces médicaments, si je concerne l'hépatite C, sont relativement raisonnables par rapport à la valeur ajoutée, par rapport à ce que coûte la maladie si on ne la guérit pas. Donc, on voit que c'est quand même par la concurrence qu'on l'a fait, donc le système privé. Mais tout est une question de régulation. On revient, et je finirai là-dessus. Il faut arrêter d'être obsédé par l'aspect, la nature publique ou privée. Tout est une question de régulation et il faut revoir la régulation du médicament dans notre pays.
Alors Antoine Vial, justement, comment on régule le prix du médicament? Comment on négocie le prix du médicament pour que ça soit plus équilibré?
Déjà, si vous voulez, sur les médicaments chers, on constate que effectivement, ils sont pas calculés sur le coût de ce qui coûte à produire et à avoir été créé. Donc déjà, il y a un problème puisqu'on voit que le même traitement d'un pays à l'autre varie du simple au double. On voit que chez nous, effectivement, il a été divisé par deux parce que d'autres entrants étaient arrivés sur le marché. Donc on voit bien que ces prix sont fictifs. Alors il faut revenir à la genèse de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Tout simplement parce que l'industrie pharmaceutique mondiale, aujourd'hui est une industrie financière. Son modèle est un modèle financier, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a décidé depuis longtemps, non pas d'arrêter la recherche, mais dans certains segments, de stopper littéralement les recherches, petit 1, et donc de concentrer sa recherche sur des maladies et des patients solvables. Donc ça veut dire qu'il y a des pans entiers, effectivement, qui sont laissés à l'abandon. Petit 1. On voit aussi que cette concurrence qui s'est créée, parce que maintenant on a finalement très très peu d'entités pharmaceutiques mondiales, ils sont une quarantaine, on voit bien qu'effectivement cette concurrence les amène à un jeu de prix là entre eux, qui est de créer de la copie, créer de la copie, créer de la copie, et c'est là qu'effectivement se pose la question de la régulation. Est-ce que l'État français, est-ce que ceux qui sont chargés de cette régulation, l'Agence des médicaments, doivent laisser rentrer tous les médicaments à partir du moment où un médicament de référence existe par rapport à une pathologie. Je prends un exemple, si dans telle pathologie j'ai un médicament qui a fait ses preuves depuis 20 ans, moi je trouverais normal que l'on impose aux médicaments entrants qui veut rentrer sur le marché de se comparer aux médicaments de référence. Or ce n'est pas fait.
Non. Frédéric Bizard.
Non, là je suis désolé, sur un plan économique, je suis en désaccord avec ça, tout simplement parce que si on poursuit ce raisonnement-là, c'est qu'on refuse de payer la prime à l'innovation. C'est-à-dire que deux médicaments qui ont des coûts de production équivalents, mais l'un guérit un patient sur deux, l'autre guérit 95% des patients, il faudrait qu'ils soient vendus au même prix.
Non, j'ai pas dit ça.
Si on parle, il faut les relier au coût de production.
Mais
ce lien au coût de production n'a aucun intérêt.
J'ai parlé du service rendu.
J'ai mal compris. Alors, mais bon, en tout cas, donc on est ce lien au coût de production n'a aucun intérêt. Encore une fois, il faut revoir. L'objectif, c'est de rendre accessible à la fois l'innovation pour tous, mais de favoriser l'innovation. D'accord. Et ce deuxième objectif de favoriser l'innovation fait qu'il faut payer une prime à l'innovation. Après, encore une fois, quand on a une innovation qui est d'une nature très différente des innovations, encore une fois, purement moléculaires qu'on a connues jusqu'à maintenant, il faut repenser les modes de valorisation. Et c'est là-dessus, il y a eu un rapport qui avait été commandé, mais comme d'habitude, la ministre commande un rapport, mais ça soit dessus, qui était le rapport Polton, sur lequel il y avait des choses intéressantes, d'autres moins, mais voilà. Donc oui, si on repense pas les modèles, forcément, on arrivera à un système déficient.
Alors, je comprends cette prime à l'innovation, mais quand ça concerne des traitements de pointe, notamment, on a parlé de l'hépatite C, mais c'est aussi le cas pour certains traitements innovants contre le cancer, qui sont plus efficaces parce que plus ciblés, mais qui coûtent beaucoup plus cher. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure quand vous parliez, Antoine Vial, des lunettes, des prothèses auditives ou des soins dentaires. En fait, le prix des médicaments, c'est à une autre échelle, évidemment, hein, mais ça concerne quand même tout le monde. Comment on fait pour faire baisser les prix dans ce domaine, Pierre-Henri Bréchat?
C'est la question de qu'est-ce qu'on doit mettre ou qu'est-ce qu'on peut mettre dans un panier de soins et de services qui permettent à la population et à ses professionnels d'avoir confiance. Et cette co-construction, elle doit impérativement se faire, puisqu'on voit que les affaires autour des médicaments, autour des prix, autour des sélections qui sont en train de s'opérer, inquiètent fortement la population, qui demande vraiment que des priorités puissent être faites. Qu'est-ce qu'on voit dans les autres pays étrangers? C'est un énorme travail sur la publication scientifique. 4 millions d'articles scientifiques sont publiés maintenant par an, 50% de déchets. Il faut arriver à filtrer les bons articles et à faire travailler les professionnels sur ces articles qui apportent une information supplémentaire sur les médicaments, bien sûr, mais les actions de prévention, les parcours, les organisations qu'il faut faire. Et nos professionnels doivent être mis en capacité de réfléchir sur cette information scientifique avec un système informatique national français qui va leur permettre d'avoir un complément d'information sur leurs pratiques, sur leurs résultats cliniques, les résultats d'atteinte aux objectifs du triple M dont je parlais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on améliore l'état de santé de notre population, est-ce qu'on guérit suffisamment de personnes. Et c'est cette co-construction-là qui va permettre de finalement peser le financement sur ce que le dispositif, le médicament, qui est prêt à convenir à la population et qui va permettre aux professionnels de faire une bonne qualité de prestation.
La bonne qualité de prestation, c'est aussi de bonnes prescriptions. Vous parliez de l'inquiétude de certains patients. Cela concerne aussi d'éventuels conflits d'intérêts. On en a encore parlé en février dernier. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, on pouvait lire « Le marketing de l'industrie pharmaceutique ne devrait pas dicter le choix des prescriptions ». Antoine Vial, est-ce qu'il faut, comme François Hollande l'avait envisagé à une période, supprimer la promotion des médicaments par des visiteurs médicaux salariés par les laboratoires ?
Bah déjà, elle a fortement évolué, la visite médicale. Globalement, elle s'est concentrée maintenant sur l'hôpital, parce que c'est là où, effectivement, sont initiées les prescriptions les plus chères. Donc, moyennant quoi, on voit bien que cette question-là a été modifiée. Sur la question de la prescription, si vous voulez, ça repose la question de la formation des médecins. On voit bien, ça a été cité tout à l'heure avec l'exemple des statines, on voit bien qu'effectivement, il y a de la surprescription en France, et donc, là encore, se pose la question du rôle et des fonctions et de la formation, là, en l'occurrence, des médecins.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à nos invités. Frédéric Bizard, économiste et auteur du livre « Protection sociale pour un nouveau modèle » paru aux éditions d'Uno. Pierre-Henri Brechat, médecin spécialiste en santé publique à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Vous avez écrit « Sauvons notre système de santé et d'assurance maladie ». Le livre est édité aux presses de l'École des hautes études en santé publique. Et Antoine Vial, expert en santé publique et auteur de « Santé, un trésor menacé » publié chez La Talente. Justement pour faire de la santé l'un des thèmes de l'élection présidentielle en France. Merci donc à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette journée consacrée aux 11 candidats à la présidentielle en France se poursuit sur RFI. Pour mieux connaître leur position concernant la culture, par exemple, rendez-vous à 13h10, temps universel, dans « Vous m'en direz des nouvelles ». Et à 16h10, temps universel, décryptage se penchera sur la politique étrangère de ces candidats.
Priorité santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.